cet été, pas besoin d'aller très loin pour vivre la grande aventure. Ici, on mélange l'urbain et les espaces verts, on fait des road trips et on se gâte. Ici, on s'amuse en famille et entre amis. Ici, on fait ce simple. Parce qu'ici, c'est plus beau que jamais. Cet été, vivez des micro-aventures ici dans le Haut-Richelieu. Tourisme-haut-richelieu.com.
Ouais, attends. Chut. Silence.
Il y a un navire.
Non, oui, mais... ouais.
Choc.ca, RIDM et les soirées d'écoute publique présentent le concours de documentaire sonore « Le réel à l'écoute ». Vous avez jusqu'au 31 août pour participer et tenter de gagner une diffusion au RIDM 2020 et plus de 1 000 $ de prix. Pour connaître les règlements, rendez-vous sur choc.ca/réel.
Maudit, c'est vrai! C'est pourquoi ça?
Passionné de l'info? Choc.ca souhaite agrandir son équipe de journalistes numériques. Sujets éclatés, reportages ponctuels écrits et audio et ouverts à tous les niveaux. Tu veux en savoir plus? Écris-nous ou suis-nous sur la page Facebook de Choc.ca.
Vivez l'expérience immersive du SATFest à la Société des Arts Technologiques. Une compilation des meilleurs courts-métrages 360 degrés réalisés par 15 artistes internationaux d'avant-garde qui vous feront voyager au cœur d'univers défiant vos sens et perceptions. De retour sous le dôme de la Satosphère, spécialement adapté pour assurer la sécurité de tous et présenté pendant tout le mois d'août. Découvrez le programme sur sat.qc.ca. Vous écoutez une émission de choc.ca. Vous écoutez une émission de choc.ca.
Switch off your television set immediately, unless you are prepared to be really terrified.
Bonsoir, chères créatures de la nuit, bienvenue aux Oubliettes, votre sanctuaire des films étranges et exclusifs à Fantasia. Je me présente votre animateur. Je suis rouillé un peu déjà. On dirait que je le sens que je suis rouillé longtemps.
Ça va ramener, c'est comme le vélo.
Simon Prêtre, je suis en compagnie aujourd'hui d'Éric Archambault. Salut.
Éric Archambault.
Nicolas Archambault. Archambault. Parce qu'on a aussi un Archambault avec nous aujourd'hui. Ben, salut Éric. On a Nicolas Archambault juste en bas ici sous le pseudonyme de Batman. Et on a avec nous Daniel Esteban Caillé. Bonjour messieurs, vous allez bien?
Oui,
ça va bien. Et toi?
Super, et super. Ouais. Olivier n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'il y a un party d'anniversaire immense à organiser. Le timing n'est pas super, mais on peut déjà expliquer pourquoi on n'a pas juste déplacé. C'est qu'on est tous sous des horaires un peu serrés. Et comme on peut le voir, déjà Nicolas est en camping présentement. Dans quelle région d'ailleurs?
Hudson.
Hudson. Et Ariel, où te trouves-tu actuellement?
À Hong Kong.
Donc, et voilà. Donc,
il est minuit et demi. Ouais.
Minuit et demi. Oh. Et chez nous au Québec, présentement, il est midi. Donc, hein, on fait ce qu'on peut et ce qu'on a. Mais là, hein, pour les auditeurs des Oubliettes, ça fait longtemps qu'on n'était pas là. Je le sais. Et d'ailleurs, notre départ était bizarre. On a parti un live. Ça a été coupé. On a dit on essaie de régler ça. On n'est jamais revenu.
Ça laisse du mystère, là.
T'sais. Ben oui. C'était tout arrangé avec le gars des...
Ah, clairement.
Mais non, mais en fait, la pandémie cause beaucoup de stress, d'anxiété. Moi, j'étais dans le jus. Olivier vivait des affaires. Éric, on lui a pas demandé.
Voilà.
Mais non, mais bon, hein? Finalement, on a décidé de prendre une pause bien méritée. Mais ça, on en reparlera dans un prochain épisode. Oui. On en parlera éventuellement. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est le retour cette année du festival Fantasia qui va se dérouler du 20 août au 2 septembre. C'est bien le 2 ou le 1? Non, le 2, hein? Et donc, bien sûr, avec toute la pandémie et tout le bordel dans lequel nous sommes prisonniers en ce moment, Fantasia a dû se revirer de bord rapidement et sera cette année en numérique, en streaming, sur le web. Et bien entendu, on a très hâte d'en entendre parler et c'est pourquoi Nicolas et Ariel sont avec nous aujourd'hui. Bon, messieurs, bienvenue aux oubliettes. Comment va votre stress en ce moment? Est-ce que vous vous sentez bien ou vous êtes épuisé? On en est où, là?
Un peu des deux. Ouais, hein? Mais oui, ça a été un accouchement qui a été, c'est sûr, il faut réapprendre à faire notre job, là. Mais non, je suis confiant que ça va bien se passer, puis on va le découvrir avec vous, là.
Nice.
Ouais, ça a été, ouais, je pense dans l'ensemble, ça a été une année évidemment un peu plus difficile à mettre sur pied. Il y a aussi toute une, tu sais, il y a une grosse période d'incertitude à savoir. On avait commencé à programmer comme d'habitude en fait. Tu sais, on avait déjà plusieurs films. Puis là, du moment que c'est devenu clair qu'on ne pourrait pas avoir une édition physique. Ben là, évidemment, toutes les questions de est-ce qu'on annule, est-ce qu'on reporte, qu'est-ce qu'on fait avec les films qu'on a déjà, avec lesquels on a déjà des ententes? Est-ce même possible de les garder dans le line-up? Fait que toute cette réorientation-là, ça a gobé beaucoup de semaines aussi, tu sais, d'incertitude, d'ajustement, comme Nick dit, de réapprendre à faire notre job pour arriver à on l'espère, une programmation qui quand même. On vous mentirait si on vous disait que c'était 100% full pin comme en temps normal, mais au moins on espère qu'elle saisit quelque chose de l'esprit Fantasia quand même.
Ouais, ben, moi, je pense que oui, en fait. Là, je trouve qu'il y a quand même, malgré tout, une belle sélection que vous avez réussi à monter. Mais oui. Ça a été quoi le plus gros défi, justement, de la transition numérique? Bon, d'un coup, votre décision est prise. OK, on va faire Fantasia, mais sur le web, quels ont été les plus gros défis de cette transition-là?
Ben, la programmation, c'était très différent. Moi, je deal avec des corporations japonaises puis coréennes. Puis ils sont assez pointilleux sur les droits d'auteur. Fait qu'il y a bien des compagnies que d'entrée de jeu, ils ont juste dit non, ça ne nous intéresse pas.
Ah ouais, hein?
Ouais. Ouais,
je veux dire, d'un point de vue de pure programmation, d'un point de vue éditorial, beaucoup de bâtons dans les roues, en fait, d'inquiétude, je veux dire, fondée aussi là, de la part des producteurs, des cinéastes, des compagnies, des distributeurs. Mais qui a fait en sorte que c'est ça. T'sais, chaque film devient une conversation un peu plus longue ou il y a différentes.
Des négociations plus complexes, oui.
C'est ça, des facteurs aggravants pour chaque truc. Mais bon, ça, à la rigueur, on s'y est fait rapidement aussi parce que je veux pas quand tu te fais dire non à tout bout de champ, ça élimine des choses. T'sais, ça. Ensuite, je te dirais l'autre.
Ça affecte le moral aussi, par exemple.
Oui, il y a ça aussi, par contre. L'autre aspect, par contre, je te dirais qui est technique, tu sais, puis on le vit encore là, en ce moment, tu sais, de faire sûr que la plateforme est correcte, que les choses display comme du monde. C'est un work. Tout le workflow, en fait, a été à réapprendre.
Parce qu'en plus, ceux qui l'ont expérimenté durant la pandémie pourront confirmer. La diffusion en ligne, c'est malheureusement pas une science qui est facile à maîtriser. Et c'est une science qui a beaucoup, beaucoup d'agnicroches qui peuvent arriver en un rien de temps, surprise, tu peux être mal pris, ça peut te déconnecter. Je me souviens, je donne un exemple. Là. Il y a eu un événement, je ne donnerai pas de détails, ce n'est pas important, mais il y a eu un événement en ligne il n'y a pas si longtemps qui s'était organisé en grande pompe avec des vedettes. Puis finalement, le live a coupé à mi-chemin. Parce que celui qui gérait la mise en ligne n'était pas avec eux sur place, mais était en région. Et il y a eu un accident de voiture dans son coin. La voiture a frappé le pylône et là, panne de courant, panne d'Internet, plus rien. Eux autres sont à Montréal, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Ils réussissent à rejoindre le gars qui leur explique « il y a un accident d'auto, vous ne pouvez plus fier sur moi, je ne sais pas quand est-ce que le signal revient. » Ils ont dû se virer de bord. Tu sais, c'est... Ça fait partie des risques là, qu'on aura en live.
Ouais.
C'est moi, c'est arrivé pendant un de nos meetings que l'Internet, j'ai une panne d'Internet, puis tu sais, c'est ça. Moi, c'est pour ça que cette année, je fais pas vraiment de séance de questions-réponses parce que avec l'interprète, mettons, j'aurais un invité coréen, l'interprète à Toronto, l'invité à Séoul à 13h en avance nous autres.
T'sais, c'est complexe.
C'est ça, si l'interprète c'est avec le cas, c'est quoi que je fais?
Non, c'est ça. C'est comment, tu sais, comment simplifier le truc pour se préserver, puis en même temps, tu sais, arriver à l'équilibre entre ce qu'on fait d'habitude, ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on a. Puis sincèrement, tu sais, il y a eu pas de notre bord, mais je pense pour tout le monde un peu, c'était rare de penser que ah, ben, ça va être plus, tu sais, ça va être plus simple, ça va être plus léger à monter. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'invités, tu sais, qui viennent au festival, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais au final, les énergies dépensées sur ces choses-là, ils doivent être dépensées ailleurs. Puis, tu sais, ça, c'est autre chose, là, mais on peut aussi en parler en tant que tu sais, de juste être humain en ce moment, en 2020. Là, tu sais, le stress mental de cette année est assez pesant, là, donc... Veux pas, tout ça rentre en ligne de compte.
Ouais, oui, puis il y a aussi la logistique. Notre directrice de communication est coincée à Berlin. Notre coordonnatrice de programmation est en Belgique. Fait que, tu sais, des fois, pour faire des meetings, puis réussir à communiquer, puis figurer à quelle heure le communiqué de presse part, vu qu'il part de Berlin, ça va être à quelle heure à l'heure de l'Est. Puis à quelle heure pour Ariel, puis c'est ça.
Ouais,
ça,
ouais, c'est ça, des complexités qu'il n'y a pas, ouais. En temps normal.
Non, c'est ça, ça a changé. On a découvert beaucoup de choses.
Mais c'est ça, comme disait Ariel, en fait, c'est bien dit. C'est que oui, il y a beaucoup d'énergie puis de temps qu'on n'a plus besoin d'investir, là, parce qu'il y a tout un volet, comme les vols puis tout ça, qui arrive plus. Mais d'un autre côté, il y a des nouveaux volets qui s'ajoutent, des complexités qui s'ajoutent, fait que ça aide pas tant que ça dans l'horreur, j'imagine.
Ah non, du tout, parce qu'en plus, l'histoire des vols, puis d'aller chercher des invités, puis s'occuper des invités, c'est on est en terrain connu.
Ouais.
Fait que, ouais. Mais là, cette année... On revenait comme à la première année qu'on travaillait à Fantasia, puis on réapprenait à faire notre job, on réapprenait à dealer, parce que c'est pas la même chose négocier un film en ligne puis négocier un film qui va être présenté en salle. C'est fait ça. Que oui, ça a été une belle année d'apprentissage.
J'aurais une question émotionnelle, mais je veux savoir.
En capable!
Fait... ouais, ça c'est clair, on est tous plus capables. Mais en fait, je veux savoir, justement, quand vous avez fait face à tous ces gens-là qui finalement refusaient d'offrir leur film pour le numérique, est-ce qu'il y a eu un moment au sein de l'équipe, de manière générale, là, ben, sinon vous-même, est-ce qu'il y a eu un moment où vous êtes dit. Hey, je ne sais pas si on va y arriver. Est-ce qu'on ne devrait pas faire un pas en arrière puis finalement annuler le projet? Y a-t-il un moment où vous avez fait un pas en arrière?
Pas de la façon que tu l'entends, je pense, dans la mesure où... C'est sûr, comme Nick disait, là, ça affecte le moral parce que tu te retrouves à pas... écoute, nous, notre job, c'est d'essayer de vous amener les meilleurs films qu'on peut trouver ou auxquels on a accès. T'sais. Puis du moment que, bon, les portes qui d'habitude nous était ouverte se ferme, mais là, tu te mets à questionner à quelque part, toi, ta propre capacité à faire ta job. Tu sais. Évidemment, c'est pas un, la relation n'est pas aussi simple. Puis là, tu t'es fait que là, tu te rappelles évidemment que tout le monde a des intérêts à défendre, à protéger, puis c'est bien normal. Mais fait pas dans ce sens-là. Tu sais, je pense du côté du moral, oui, ça a été un peu plus difficile, mais après ça, il ne faut pas non plus sous-estimer la quantité de films qu'il y a avec lesquels travailler. Puis ça nous a permis d'aller peut-être voir ailleurs. Il y a peut-être des films qu'on n'aurait pas montré normalement parce que, par exemple, je pense du côté asiatique, normalement c'est comme « Ah, ils sont trop vieux! » C'est des films de l'automne 2019. Qui dans notre workflow, dans notre pipeline, sont un peu vieux. Mais pour vous, je veux dire, ces films-là sont pas plus sortis à Montréal, sont pas plus sortis au Canada, sont pas plus sortis en Amérique du Nord. C'est juste que nous, dans, tu sais, on marche au beat de l'industrie, tu sais. Fait que ça nous a permis d'aller faire d'autres choix. Puis au final, la programmation s'est bâtie comme ça, tu sais. Il n'y a pas eu de moment de sécheresse, tu sais, comme tu dis.
Non.
Shit, il n'y a rien, tu sais.
Mais c'est sûr que ça pèse quand tu te fais dire non par des compagnies avec qui tu as toujours travaillé. Tu sais, c'est poli, là. Puis en même temps, on ne peut absolument pas leur en vouloir parce que c'est tout à fait compréhensible. Mais tu sais, un film comme Peninsula, la suite de Train to Busan, tu sais, avec les dates de sortie, ça aurait été parfait pour jouer à Fantasia vers la fin du festival. Puis là, tu te dis, hey, on aurait pu l'avoir. Tu sais, c'est...
Non, c'est ça. Il y a plein de, il y a plein de scénarios parallèles. Tu sais, on a vu des films nous filer entre les doigts, je veux dire, de manière, tu sais, en real time. Là, tu sais, des films que normalement seraient sortis à l'automne. On aurait montré ça en grande pompe dans le hall. Peninsula, c'est un exemple parfait. Tu sais, j'apprécie ça. Peut-être que oui, peut-être que non, mais...
Il y avait une possibilité, il y avait une ouverture, là, c'est ça?
Ben absolument.
Le scénario était parfait.
Ou tu sais, un film comme Shirley, tu sais, par exemple, qu'on avait, on a beaucoup aimé à Berlin, tu sais, le film avec Elizabeth Moss, Shirley Jackson, qui est sorti, bon, en VOD ou en premium VOD, là, j'oublie, tu sais, qui a été comme... rapidement mis en ligne, tu sais, mais ça normalement, tu sais, c'est un film qui aurait fait encore des festivals. Puis tu sais, c'est pas juste nous là, c'est aussi toute l'industrie qui s'adapte puis qui.
Ben oui, parce qu'en fait, toutes les horaires de sortie, toutes les horaires de sortie sont chamboulés. Fait que c'est pas juste des décisions de droit d'auteur. Il y a aussi des décisions stratégiques là qui doivent s'adapter. Fait que tu sais, c'est ça. Tout le monde est dans la même situation.
Ouais. Ça, j'avais des films qu'on avait confirmés à Berlin. Qui était invité, que ça avait été accepté. Puis vu que le film a été reporté, ben ça a été tourlou, c'est plus confirmé. Puis, tu sais, il y a des bouts, je perdais plus de films que j'en gagnais.
Ouais.
J'ai une question, moi, qui me passe par la tête. Là, on parle beaucoup de choses, d'obstacles, de choses négatives, mais est-ce qu'il y a des trucs qui étaient le fun, que vous avez découvert, tu sais, dans le sens que c'était positif de ce point de vue-là?
Ah, tu veux dire dans le sens qu'il n'aurait peut-être pas trouvé dans le contexte régulier, c'est
ça? Oui, excuse-moi. Oui, ma question n'était peut-être pas claire, là, mais c'est quoi l'aspect peut-être plus positif de cette pandémie-là pour vous?
En as-tu un aspect positif?
Oui, s'il y en a, s'il y en a, évidemment.
C'est une bonne question. Peut-être, d'une certaine manière, ça reste à voir, là, mais je trouve ça quand même intéressant. Que tous les films soient un peu sur un même pied d'égalité, tu sais, dans le sens où, je veux dire, bien sûr, on va vendre des billets proportionnellement aux films comme on le fait, comme ça arrive pour tous les films tout le temps dans la vraie vie. Mais je te dirais, tu sais, cette dynamique hall de Sèvres, puis je veux pas aussi qu'il se reflète sur notre programmation, est pas là cette année, tu sais, fait qu'il y avait pas ces questionnements-là. Est-ce que ça a affecté notre programmation? Pas nécessairement, mais je te dirais qu'il y a quelque chose d'un peu décomplexant quand tu dis « OK, le film va être en ligne ». Puis non seulement ça, moi, ça me faisait vraiment plaisir quand un film acceptait d'être présenté en format VOD, par exemple. Mm-hmm. Parce que là, tu te dis « OK, ça, c'est quand même un game changer. Le film va être disponible tous les jours, à toute heure, pendant 14 jours. Je veux dire, c'est jamais arrivé dans l'histoire de n'importe quel film de notre programmation auparavant.
Ouais, ça, c'est cool.
Fait que tu te dis, OK, puis rajoute à ça le fait qu'on va être diffusé à travers le Canada. T'sais, tu te dis, OK, là on tient de quoi? Si le public est au rendez-vous, si un film là, réussit à faire, faire du bon bouche-à-oreille puis à faire vraiment une traînée de poudre comme ça, un film en VOD, par exemple, il pourrait être vu par des centaines et des centaines de personnes. Quand normalement, on aurait programmé ce film-là dans le DSF deux fois, c'est toute une autre game. T'sais. Fait que ça, j'ai très hâte de voir la visibilité puis de voir à quel point ça peut être porteur pour certains films. Okay. Ça, j'ai très hâte de voir.
Mais tout n'est pas noir.
Non,
on a toujours constamment des nouveaux défis. T'sais, quand Netflix est sorti, ça a changé la, la dynamique de programmation parce que là, il y a des films qui sortaient sur Netflix, puis on avait accès à... Il y a des films auxquels on avait accès avant que, qu'on ne pouvait plus présenter. Fait qu'avec chaque défi, en même temps, ça a une difficulté, mais ça, ça donne une motivation.
OK.
C'est... Puis moi, il y a quelque chose que je trouve bien intéressant, c'est la, la section classique qu'on fait, les classiques de Fantasia. Il y a des films qu'on, qu'on a déjà présentés puis qu'on, qu'on va pouvoir présenter à un nouveau public. Puis que je pense que c'est, quand on dit des classiques, là, c'est pas juste des films qui ont joué à Fantasia, là, c'est des films qui ont eu vraiment un impact majeur sur le festival puis sur le public. Fait que ça, c'est le fun. Je trouve que c'est bien intéressant.
J'ai une autre question, moi. Il y a quelque chose qui est différent avec l'ère numérique. C'est les meetings, les réunions, c'est plus complexe que ça l'était. Hein? Moi, j'ai dit dans une autre entrevue il n'y a pas longtemps que probablement que le mot-clé de 2020, ça va être « Est-ce que vous m'entendez? Hein? M'attendez-vous? »
Ah, ah, on vient de le perdre!
Exact, exact. Comment ça a été difficile à gérer vos meetings? Est-ce que ça a fait qu'au final, chaque département a été un petit peu plus compartimenté?
Oui, puis non.
Oui.
Tu sais, mettons, on a des gens qui sont en Europe et que d'habitude, ils arrivaient juste une semaine avant le festival. Mais là, on avait toujours accès à leur parler. Fait qu'il y avait ça de positif. Mais de l'autre côté, c'est... de ne pas se voir en face, tu sais, avant chaque réunion, quand on se retrouvait au bureau, ça prenait à peu près une heure à commencer parce qu'on se parlait, j'ai vu tel film, tu sais, même si je n'avais pas vu un film, j'entendais Mitch en parler avec tellement d'enthousiasme que, tu sais, je savais un peu à quoi m'en tenir par rapport à certains films. Puis là, tu sais, c'était... on commençait le meeting, puis on commence, puis bon, ben là, moi, il faut que j'y aille, puis c'était ça. Il y a moins d'interactions, il y a moins, c'est moins pas chaleureux, mais tu sais, c'est différent.
Oui, mais c'est, je pense que le challenge est le même dans tous les jobs, tous les secteurs. Là, encore une fois, tu sais, je pense que psychologiquement, ça t'isole, mais ça t'isole aussi dans ta charge de travail. Fait que forcément, il y a moins cet échange-là entre les collègues, il y a moins, tu sais, tu fais tes trucs, puis... Mais veux pas, tu sais, c'est ça, à la longue, faire ces trucs sans cet échange-là que Nicolas décrit, ça crée certaines lacunes, tu sais, puis... Mais je pense que ça, c'est partout, puis, tu sais, je pense que tout le monde s'adapte un peu à cette façon de travailler qui manque un peu de l'aspect social, mais bon.
Mais tout ça pour arriver à une question qui brûle les lèvres de beaucoup de gens en ce moment, les miennes comme ceux des auditeurs. Puis à date, il semble que personne ne soit capable d'y répondre. Peut-être parce que c'est trop tôt, mais c'est pour ça que je voulais savoir à quel point c'était compartimenté, parce que je voulais savoir à quel point vous êtes au courant. À quoi s'attendre de l'ambiance du streaming? Est-ce qu'il y a du chat? Est-ce qu'il va y avoir des Q&A? À quoi s'attendre? Comment ça va fonctionner? Qu'est-ce qu'on sait en ce moment, au niveau technique et au niveau ambiance, mettons?
Bien, c'est sûr que de l'ambiance... tu sais, la plateforme... On utilise une plateforme, en fait, qui est néo-zélandaise, qui s'appelle Shift 72.
Okay.
Qui est une plateforme qui existait bien avant la pandémie. En fait, c'est une compagnie qui se spécialise en solutions vidéo pour... souvent, en fait, avant la pandémie, c'était des marchés du film, des trucs comme ça, des screening rooms virtuels. Puis quand la pandémie est arrivée, en fait, ils ont fait un partenariat avec Festival Scope, qui est une autre plateforme pour les professionnels de l'industrie, en fait, qui est en fait un genre de c'est des festivals virtuels qui te permettent de te rattraper en fait sur certains films. Donc ils ont créé un truc sur mesure pour plusieurs festivals. TIFF va utiliser la même plateforme, Locarno l'utilise aussi.
Venise, je pense.
Je sais pas pour Venise. Venise insiste à faire un événement.
On va voir.
Ouais, c'est ça. C'est rapidement devenu un des nouveaux standards de l'industrie, mais il ne faut pas se berner, c'est une plateforme. Imaginez un Shudder, un Netflix, un ci, un ça. C'est une plateforme vidéo qui va être en ligne d'ailleurs de lundi, demain. Où vous allez être en mesure en fait, de voir toute la programmation, de cliquer sur vos films, puis de essentiellement louer les films. Donc, les films qui sont disponibles sur demande à travers le festival vont être disponibles en tout temps. Okay. Puis les films sur horaire vont être disponibles dans leur plage horaire. Donc, il va falloir se timer devant son ordi, sa télé, son application à cette heure-là pour ces films-là. Par contre, pour remédier à l'ambiance, en fait, on a un serveur Discord qu'on a déjà partagé sur nos réseaux puis qu'on va repartager sur nos réseaux. Donc, on invite les festivaliers à s'inscrire. Il y a différents chatrooms. Ils peuvent créer des chatrooms. Les gens peuvent créer des chatrooms par rapport au film pour essayer de créer une ambiance de communauté, un endroit où les gens peuvent discuter des films qui peut à peu près être l'équivalent du Irish pub ou du lobby ou peu importe. T'sais, après ça, c'est sûr qu'on sait tous comment... c'est la différence entre un bar puis un chatroom, et c'est quand même un gros fossé, mais je pense qu'il va quand même avoir une petite spark qui va se créer là-dedans. T'sais. Mais on n'a pas... si les festivaliers pensaient à des trucs, il n'y a pas de... sur la plateforme, il n'y aura pas de bouton de miaulement, il n'y aura pas de chat sur le bord, il n'y aura pas d'emoji qui défile dans ta face. Malheureusement, la technologie... Il faut aussi comprendre, les projections en simultané, ce n'est pas des live streams. C'est pas des... donc, tu n'es pas dans un Zoom avec 500, 600 personnes comme dans une salle de cinéma. C'est juste que contractuellement, en fait, le film ne pouvait nous être disponible que dans cette plage horaire-là. Donc, sur la plateforme, il est disponible que sur une plage horaire, en fait, à l'image de la vraie vie. Tu sais. Donc, autant...
Non, continue, excuse-moi.
Non, mais c'est ça. Fait qu'il n'y aura pas de bouton de air horn puis de miaulement. Mais je pense que ça c'est pour le mieux.
Oui, parce qu'il va y avoir de l'abus.
Oui, ouais, puis rien qu'empêche qu'on peut être 4, 5, en tout cas 10 maximum, si je ne me trompe pas, avec ouais, ce film, créer sa propre ambiance.
Oh, oui, c'est ça. Puis on a des films qui je pense que les gens vont... Tu sais, parmi les classiques, je pense à... HK Forbidden Super Hero, le pervers masqué qui se met des bobettes dans la face et qui devient un super héros.
Ouais. C'est des films à regarder en gang. Puis à commenter.
C'est ça,
ben oui.
Avec un petit verre de rosé. Puis, je pense que le monde peut se faire une ambiance vraiment le fun.
Ouais. Ouais.
Puis, mais aussi, il y a une autre affaire qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un nombre limité de billets. Fait que okay. Ça aussi, faut y passer parce que ça se peut qu'il y ait des films que si t'attends trop, il y en aura plus.
OK, mais ça se peut qu'il y ait des films sold out, là.
Ah oui, ils ont toute une limite.
OK, ouais. Ça, c'est intéressant à savoir. C'est bon à savoir que faut pas trop attendre, justement. Là.
C'est des considérations contractuelles, mais il y a une quantité limitée de billets pour chaque film. C'est plus de place que dans le hall. Fait qu'on va rassurer quand même les gens. Donc ça devrait aller. Pour la plupart des films, là, ça devrait aller.
Puis tu as soulevé quand même un point intéressant aussi. Tu disais, bon, c'est des deals contractuels. On avait accès à ce film-là juste dans ce laps de temps-là et tout ça. Mais je pense justement c'est important de faire bien la distinction. C'est pas parce qu'un film est en VOD qu'un autre est en live qu'il y en a un meilleur que l'autre. Là. C'est juste des histoires de contrat, c'est des histoires de deals de droits d'auteur. C'est la seule différence, en fait. Là.
Mais c'est la solution, en fait, qu'on a trouvée. Ça a été quand même une grosse considération à l'interne. Puis ce modèle-là double, en fait, c'est un modèle qu'on n'a pas vu ailleurs. Puis qu'on s'est dit, OK, ça, c'est la solution pour donner le plus possible d'options, en fait, à nos contacts, à nos cinéastes, à nos producteurs, à nos scènes, pour essayer de monter la programmation la plus fidèle possible. Parce que Ben, parce qu'au final, imagine-toi un scénario où la moitié, tu sais, où ces films-là ne seraient pas dans la programmation pour cette raison-là. Donc, on a décidé d'y aller avec un modèle un peu qui n'est pas hybride au sens cinéma virtuel, mais qui est hybride au sens du format de projection virtuel pour se donner le plus d'options possibles, en fait.
C'est cool, OK. Là, cette année, on peut commencer à parler de la programmation. Cette année, là, on aurait eu des grands invités. Finalement, c'est nous qui allons aller les voir chez eux en Zoom. Mais John Carpenter, parlez-moi donc un peu de John Carpenter qui va nous offrir un masterclass.
Ben, en fait, oui.
on s'attend là, brièvement. Mais,
oui.
Que vous en savez, en fait?
Il n'y a pas grand-chose à présenter. Ça va être John Carpenter. Ce qui est le fun, c'est qu'il va, il va nous présenter un de ses singles, en fait, musicaux. Puis, la dynamique aussi, ça va être en fait une remise de prix comme on fait d'habitude. Ouais. Donc, Lifetime Achievement Award. Mais
un prix de carrière.
Un prix de carrière, ouais. C'est ça. Donc, ça va être vraiment le fun. J'ai hâte de voir personnellement ça donne quoi John Carpenter chez lui en Zoom. Donc, non, ça va être cool.
Il est venu à Fantasia, je pense, en 98.
Pour Vampire, oui.
Ouais.
Mais là, c'est sûr. Vas-y, Eric, vas-y.
On n'arrête pas de partir. Est-ce qu'Eric, on est trop excité? J'allais dire, c'est gratuit, ça, en plus.
Oui, c'est ça.
Je ne me trompe pas.
Donc, ça va être une... Pour les masterclass, les Q&A, on utilise Zoom, format webinaire, en fait. Donc, pour ce qui est des Q&A, les liens vont être partagés sur la plateforme. Donc, les projections live vont avoir des Q&A après, où les gens vont être invités, en fait, à cliquer sur le lien. Entrer dans Zoom comme un Zoom, c'est juste qu'avec Webinaire, il y a moyen de... Il y a les hosts.
Ouais. Moi, les panélistes. Les deux, là. Ouais. On verra pas tout le monde chez eux.
Ouais. Puis les intervenants. Donc ça, c'est vraiment pratique. Puis même formule pour les classes de maître. Par contre, pour une classe de maître comme celle de John Carpenter, il y a un prix. Il faut s'inscrire, en fait. Donc, ce ne sera pas un lien qui va circuler à tout va, mais il va falloir s'inscrire. Puis, encore une fois, les places sont limitées, mais ça reste d'être assez vaste. Oui.
OK. Je sais que c'est moins votre volet, mais j'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de conférences intéressantes cette année. Plusieurs invités intéressants qui vont venir nous parler justement dans ce concept-là de Zoom en conférence. Est-ce qu'il y a des trucs qui ont attiré votre attention, que vous avez le goût d'attirer notre attention vers « manquez pas ça » ou « ça va être le fun » Non, OK. Parfait. Mais c'est ça, comme je disais, c'est moins votre département. Je prenais une chance.
La voit. Bon. Mais c'est sûr que aussi au niveau de tu sais, l'hommage à José Mojica Marin, c'est...
Coffin Joe, ben oui.
Ouais, Coffin Joe, ça va être vraiment intéressant. Puis, on a même un party de fête, je me souviens plus de qui. Fait que ça va être... tu sais, je pense que le monde va pouvoir avoir l'impression d'être dans un festival quand même. Là.
Ça, c'est cool.
All
right, OK. Ben, de toute façon, les conférences, moi, je vais en voir beaucoup. On va en reparler au cours des semaines qui suivent avec les oubliettes. Fait que vous inquiétez pas, on aura l'opportunité d'en jaser plus. Mais là, bon, lançons-nous dans votre volet, hein, le cinéma. Vous êtes d'ailleurs très beaucoup dans le cinéma asiatique. Ariel, tu es aussi à la tête du volet Caméra Lucida. Donc, en fait, ouais, je commencerai peut-être avec ça, Ariel. Moi, c'est un volet que j'aime beaucoup à chaque année, Caméra Lucida. J'aimerais ça que tu nous le présentes puis que tu nous présentes un premier coup de cœur, mettons, pour cette année.
Bien sûr. La section cette année, malheureusement, elle a été réduite un petit peu. Donc, on présente 6 films au lieu de 10 à 12, comme dans les années précédentes. Par contre, j'ai essayé de bâtir quelque chose d'assez éclectique en termes de genre, de ton. Je te dirais qu'il y a deux, à mon avis, il y a deux pièces maîtresses. Le premier film s'appelle Time of Molting. Sabrina Mertens, ça a été un coup de cœur de début d'année. On l'a vu, le film a eu sa première internationale à Rotterdam. Okay. On l'a vu peu de temps après. Puis je vous dirais, tu sais, dans la lignée des films que j'ai pu programmer dans le passé, des trucs comme Loose, des trucs vraiment, tu sais, des premiers films là, qui te jettent à terre, c'en est un. C'est aussi, en fait, je sais pas ce qu'ils mettent dans l'eau en Allemagne, là, mais ça aussi, c'est un film de fin d'études, c'est un film de thèse.
OK.
Wow.
Puis c'est... En fait, c'est comment dire, c'est très à propos, c'est très en termes de ce qu'on vit en ce moment. C'est sur l'isolation puis la déconfiture graduelle et mentale d'une jeune fille en fait.
Ok.
Sur une très longue période de sa vie. Ça commence dans les années 70 puis c'est une jeune fille assez normale. Elle vit dans une famille qui a tout l'air normal également. Mais tranquillement, tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu sens qu'il y a quelque chose de vraiment louche dans la relation des parents, puis dans la façon, elle aussi, qu'elle se développe en tant qu'enfant dans un univers où tu vas réaliser finalement au fur et à mesure qu'elle est très isolée, en fait. Time of molting, évidemment, molting, c'est l'acte de perdre sa peau, mais il y a aussi une connotation de pourriture, de moisissure. Donc, ce truc-là, tu sais, très, très psychologique, très aride aussi. Ça, c'est des tableaux. Mais si vous êtes fan de trucs comme Yorgos Lanthimos, comme Ulrich Seidel, des trucs comme ça, ça va vraiment venir... Ouais, merci, tu m'as... Ça va vraiment venir vous glacer le sang, en fait. Puis moi, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur cette année. Là. Un film super maîtrisé, tout dans l'atmosphère. Puis qui m'a... En fait, je ne savais même pas que j'écoutais un film d'horreur avant vraiment de m'enfoncer dedans. Tu sais, puis le film m'a vraiment, vraiment surpris. Donc ça, c'en est un. C'est un de mes gros coups de cœur. La deuxième grosse pièce de la section, je dirais, c'est Labyrinth of Cinema, le dernier film de Nobuhiko Bayashi, qui est le réalisateur, évidemment, de Haosu, qu'on connaît tous très bien, de Discarnate.
J'avais pas fait le lien. Ça, je le découvre, là. Puis, oh, que je suis encore plus excité que je l'étais. Ça, c'est une bonne nouvelle.
Une panoplie de films. Obayashi, malheureusement, est décédé au mois d'avril dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans, on programmait Hanagatami, qui était son... En fait, qui était à ce moment-là, supposé être son dernier film. Il avait été diagnostiqué d'un cancer. Il s'était dépêché pour finir Hanagatami. Finalement, il s'est remis assez pour faire un dernier truc. Mais là, il savait que c'était son dernier film parce que, man, c'est balls to the walls crazy. Tu sais, c'est vraiment un cinéaste là, qui a fait 50 films. Puis qui pitch toutes ses idées, tout ce qu'il y a. Visuellement, c'est complètement fou. Si tu penses que comme Guy Madden ou des gens comme ça, ils font des trucs intéressants avec le genre de plastique, du green screen, des collages. Tu le vois un peu là, avec les poissons.
Mais on le voit même juste dans les stills, justement, les screenshots. On le voit qu'il y a du découpage, du collage. Ça, c'est le fun, ça.
Oui, visuellement, c'est vraiment, vraiment flyé. Puis en termes d'histoire, c'est un truc super cool aussi. Ça commence, le setup, c'est de la science-fiction. C'est 3 jeunes cinéphiles qui, en fait, le cinéma de leur village, de leur petite ville en bord de mer, va fermer. Ils décident de s'y rendre. C'est un marathon toute la nuit de films de guerre, en fait. Puis là, il y a un gros orage, un éclair, ça bat sur le cinéma. Puis les 3 garçons sont projetés dans l'écran. Puis le reste du film devient un genre de périple dans le temps, mais surtout un périple à travers l'histoire impérialiste, l'histoire de guerre du Japon, puis l'histoire du cinéma, en fait, aussi japonais. Donc, le film en tant que tel devient un genre de... En fait, c'est un film très classiquement humaniste, classiquement du style qu'on pouvait voir après la guerre là, au Japon. Là, donc, anti-nucléaire, anti-guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il trace quand même le lien entre cette histoire-là. Mais que ce soit le conflit sino-japonais, que ce soit des guerres féodales, mm-hmm. jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à la bombe atomique, tout le temps dans le frame du cinéma, fait que tu rencontres Ozu, tu rencontres John Ford, tu rencontres des samouraïs, les kids se ramassent en plein milieu de grosses batailles historiques entre Shogun. Et c'est capoté ben raide, ça dure 3 heures, c'est le truc le plus pour vrai, là, c'est complètement psychédélique, puis tu t'ouvres une bière, là, tu t'écoutes ça, puis c'est de loin peut-être mon film préféré là, du line-up.
Ok, tu piques la curiosité, cool.
Ouais.
J'y reviendrai à Caméra Lucida ou à toute autre de tes propositions. J'aimerais entendre Nicolas un peu. Qu'est-ce qui... Allô, Nico!
Bonjour!
Qu'est-ce qui t'a jeté à terre cette année, là? Qu'est-ce que t'as hâte de nous montrer, là?
Moi, j'ai bien hâte de montrer Watakoi Love is Hard for Otaku, qui est une comédie musicale. L'année passée, Dance With Me avait gagné un prix du public. Je pense que celui-là a encore plus de potentiel parce que, justement, ça parle de la culture otaku. C'est l'histoire d'une jeune femme qui commence un nouveau travail. Puis, elle essaie de cacher que c'est une geek. C'est une geek de manga, de cosplay. Puis finalement, il y a un de ses collègues, elle ne savait pas, mais c'est un de ses nouveaux collègues, c'est un ami d'enfance qui sait absolument tout ça. Puis lui aussi, c'est un otaku, fait qu'ils font un pacte pour garder ce secret-là pour garder une crédibilité parce qu'ils ont peur du regard des autres si les collègues se rendent compte que, tu sais, mettons, elle a trip sur les mangas où des hommes hétérosexuels se livrent à des passions brûlantes instantanées sur l'intuition du moment. Puis, c'est un genre vraiment particulier de manga. Fait que, tu sais, toutes les gens qui aiment... Puis l'autre personnage, lui, c'est un geek de jeux vidéo. Fait que tu vois aussi l'interaction entre les différentes geekness, tu sais, comme « Ah, toi, t'es jeux vidéo, c'est moins cool. » Non, c'est vraiment un beau film. C'est une comédie romantique, puis tous les numéros musicaux sont uniques. Ça va de la J-pop au jazz à des numéros de comédie musicale un peu plus classiques, à la « Singing in the Rain », puis... Fait que c'est varié, c'est extrêmement... Les tunes vont rester dans la tête des gens pendant longtemps. Puis je trouve que pour toutes les personnes qui aiment aller dans les conventions, puis justement, t'as une scène qui se passe dans une convention où... Donc, c'est...
Ah, il veut pas trop nous en dire, t'as dit ça passe, hein?
Non.
Il y a ça, puis là...
Il s'est rattrapé.
Oh, oui. Fait qu'à la fin, il meurt. Non, c'est vraiment un super beau film. Je pense qu'il va résonner pour notre public.
All right. Cool. Tu veux-tu nous en offrir un autre, peut-être?
Oui. Project Dreams, How to Build Mazinger Z's Anger.
Ah oui, ça va l'air bon, ça.
Qui est une œuvre assez particulière. Au Japon, ben, Mazinger Z, c'est une série japonaise animée, mm-hmm. inspirée d'un manga de... Ah, mon Dieu, j'oublie son nom. Dès que je vais arrêter de le chercher, je vais m'en rappeler.
C'est Gonagai, non?
Gonagai, c'est ça. Okay. Cette série-là a inspiré fortement Goldorak.
Ah oui, OK.
Ouais.
Il y a même le personnage d'Alcor et... au Japon, il s'appelle pas Alcor. Puis c'est le même personnage que le personnage principal de Mazinger Z. Puis, c'est un peu le même principe, là. Un gros robot avec un V sur le chest qui pitche des rayons, puis des petites cornes jaunes. Tu sais, on voit vraiment la... Mais au Japon, ici, Goldorak a été beaucoup plus gros, mais au Japon, Mazinger Z était 100 000 d'avance sur Goldorak en termes de popularité. Puis, c'est un vrai projet qui a existé. En 1983, la firme d'ingénieurs Maeda Corporation a vraiment de faire l'étude de faisabilité de construire le hangar de Mazinger Z où il sort d'une piscine. Puis,
Aïe, aïe! Wow. Je savais pas que c'était vrai, ça.
Bon, oui, c'est... Wow. Puis, tu peux trouver, si tu lis le japonais, tu peux trouver le rapport sur Internet. C'est ils ont appelé cette aile-là l'aile de... C'est l'aile de fantasy marketing. Puis, ils ont fait d'autres projets après ça, inspirés des mangas, puis des animés. Puis, c'est ça, c'est l'histoire. C'est au début, quand le directeur de la section arrive avec cette idée-là, ils sont comme « Hein? Qu'est-ce que... Sérieux? » Puis là, au fur et à mesure, ils commencent à s'investir. Puis là, c'est... Tu sais, au début, c'est très manga. Les personnages sont extrêmement typés puis extrêmement colorés. Sont présentés justement comme des personnages d'anime. Puis, c'est ça. À mesure que le projet avance, là, il y en a de plus en plus qui s'investissent vraiment. Puis, c'est un beau mix de réalisme puis de fantaisie parce que, tu sais, ils font vraiment ça. Tu sais, c'est comment ça coûterait? Comment on fait pour le faire sortir d'une piscine? Mais tu sais, il faut que l'eau revienne. Puis si une petite quantité d'eau-là tombe dessus, il va s'oxyder. Fait que, tu sais, c'est vraiment réaliste. Ah, okay. Puis,
c'est intéressant.
Il y a... j'en dirai pas plus.
Non, faut la pas trop t'en dire.
Oui, non. Je veux voir ça, moi. Ça...
Moi, t'as déjà pris ma curiosité. Ouais.
Mais avec la popularité de Goldorak au Québec, je pense que... Tout le monde qui a aimé ça, ouais. qui a trippé, c'est une série culte sans bon sens. Ici, je me souviens quand le coffret DVD était sorti, j'étais allé, on était passé chez Archambault avec Shinsuke Sato, le réalisateur de tant de films qu'on a présenté. Il est venu 3 fois à Montréal. Puis, on avait été là, puis il avait vu ça, puis il disait « Comment ça que c'est là? C'est au Japon, c'est mineur, puis c'était le numéro 1 des ventes. » Chez Archambault, fait que... Non, c'est...
OK.
Ouais. Moi, je trouve que ça va l'air bien, en tout cas.
Ah non, c'est vraiment, vraiment le fun.
Cool.
Puis justement, le fait de savoir que ça a vraiment existé, c'est... Tu sais, dans le registre du Only in Japan, là, ça rentre là-dedans.
Ah, c'est clair. Ah ouais, ça, c'est officiel. All right, ben, on retourne à Ariel peut-être? Qu'est-ce que tu aimerais nous suggérer d'autre?
Allons-y avec l'abscisse.
C'est dans ma liste.
C'est un très très beau, très bon film de science-fiction. Mais en fait, c'est pas de la science-fiction. Pour faire ça, je vais dire que c'est un film de science-fiction. C'est un film d'anticipation, en fait, qui était supposé avoir sa première mondiale à South by Southwest cette année. Avant que le festival soit annulé, donc on est très 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 content de le présenter. Ça part du principe en fait où il y a un nouveau système de comment dire de bourse qui est inventé, la bourse quantique qui va révolutionner la haute finance puis ci puis ça puis créer plein d'emplois.
On va en avoir besoin cette année.
Finalement, ce que ça crée, c'est que ça crée une nouvelle économie, un genre d'économie, un gig economy comme Uber, comme Airbnb, comme toutes ces choses-là, où les gens, en fait, qui ont besoin d'un emploi, ils peuvent aller trouver un emploi avec cette compagnie-là. Puis c'est de faire du câblage, en fait, de passer des câbles dans la forêt sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres pour connecter ces grosses bornes-là, le cube qu'on voit sur le poster, aux autres bornes de quantum computing qui vont permettre au trading, tu sais, du trading aux vitesses, ouais. Ça existe déjà. Donc, l'idée que ça aille encore plus vite puis que les riches deviennent encore plus riches au détriment des gens qui travaillent. Ce qui est vraiment le fun avec ce film-là, c'est que c'est pas tout à fait de la science-fiction dans la mesure où ça se passe dans un présent parallèle. Tu sais, c'est 5 minutes dans le futur où tu t'imagines très bien que ces emplois-là existent. Puis donc, le personnage principal, il passe d'une job de livraison à la Uber Eats, à cette job-là. En fait, il a besoin de faire plus d'argent, fait qu'il prend cette job-là. Puis c'est une job qui est hyper, je sais le mot en français, je ne sais pas, mais qui est comme gamifié. Tout est sur les récompenses, tout est sur, tu sais, t'as un nom d'utilisateur. Si tu câbles tant de kilométrage, tu as des points. Tout ça pour créer un esprit de compétition. Mais dès qu'il prend la job, en fait, c'est que tu réalises un peu l'ampleur de cette culture. Tu sais, c'est comme c'est une culture. Tu sais, comme on pourrait imaginer qu'il y a une certaine culture à l'intérieur de chauffeur Uber, de messager à vélo. Tu sais, il y a une culture qui se crée dans ces emplois-là. Puis en fait, il y a tous ces câbleurs-là, tu sais, qui ont des années d'expérience, du kilométrage au galon, puis tout ça. Mais il y a une genre de conspiration qui est à découvrir, où en fait, la façon que le gars a eu son nom d'utilisateur est un peu louche, puis il s'embarque là-dedans, puis il réalise que ce job-là, non seulement, tu sais, je veux dire, est un peu croche en partant, tu sais, mais est plus croche qu'on le pense, puis la culture corporative de cette compagnie. En fait, il y a tout cet aspect de conspiration qui est super le fun à découvrir au fur et à mesure du film. Puis évidemment, ce que je trouve fascinant, c'est que Noah Hutton, le réalisateur, en fait, il vient du documentaire. En fait, il a fait deux documentaires activistes sur les énergies fossiles. Puis, fait qu'il vient d'un background qui est complètement... Qui est beaucoup plus politique que science-fiction, si on veut, mais ça informe le film. Puis le film n'hésite pas, dans le fond, à vraiment faire la critique de tous ces jobs-là avec zéro filet de sécurité, zéro bénéfices sociaux, mais aussi toute cette culture-là. Tu sais, les choses qu'on prend pour acquis maintenant, là, l'économie du partage, Airbnb, les choses qui dévaluent le travail, puis qui, en fait, qui sont à la source de tellement de problèmes.
Puis en même temps, si je peux me permettre d'ajouter, je trouve ça toujours intéressant aussi quand quelqu'un d'un milieu X décide de passer à un autre milieu pour produire un long métrage. Un exemple, juste le fait que Genet et Caro venaient de la publicité. Ça s'est reflété dans leur cinéma qui était très coloré, très tape à l'œil. Ouais. Même chose peut-être pour le documentaire Nightmare, où on est dans... C'est un réalisateur de blockbuster d'Hollywood qui a finalement décidé de réaliser un documentaire. Ça, c'est une couleur qu'on n'était pas habitué de voir dans le documentaire, justement. C'est toujours bien intéressant, ça, quand il passe d'une catégorie à l'autre.
Ben absolument, puis ici, c'est ça, tu as toute cette sensibilité politique-là, tu vois très bien les enjeux qu'il travaille, puis comment ce scénario-là a pris forme dans son esprit, tu sais, après, je vais aller vous chercher des titres, là, mais...
On peut te relancer. Olivier Bigonès, qui n'est pas avec nous, avait quand même des questions à vous poser. Il y en a une, malheureusement, c'est sur un film que vous n'avez pas vu, donc on se reprendra pour ça. Mais Éric, si tu veux poser sa question, justement, sur Detention.
Écoute, j'avais la même question que lui, dans le fond. Là. Dans le fond, ce qu'il veut savoir, parce que c'est basé sur un jeu vidéo, il faut savoir honnêtement, est-ce qu'on peut s'attendre à un navet genre Fatal Frame ou quelque chose de réussi un peu à la Silent Hill là, dans ces eaux-là ou même Resident Evil qui était quand même pas si mal?
Resident Evil, c'est contestable.
Oui, ben, je parle de Vigo à moi.
Le premier, j'avais bien aimé.
Tu parles aux deux mauvaises personnes là, pour bâcher Fatal Frame, par contre.
Ah ouais, ben, il a l'air de ne pas avoir aimé ça. C'est ça qu'il a dit.
C'est beaucoup plus...
Moi, j'ai adoré Fatal Frame.
C'est beaucoup plus salarial que Resident Evil, que Fatal Frame. Ben, tu peux... Vas-y, Nick...
Ben, en gros, c'est un mélange entre Pan's Labyrinth et Silent Hill, à peu près.
OK.
Parce que c'est à une époque qui s'appelait la Terreur Blanche. Et c'était c'était dans le fond, c'était un régime totalitaire. Puis, tu avais la police de la pensée puis qui vérifiait tout. Puis là, c'est même à l'école où les personnages vont. La police militaire est là pour vérifier quel livre ils transportent, puis tous les livres, par exemple, qui faisaient la promotion, tu sais, qui parlaient de culture taïwanaise, étaient interdits. Donc, c'est à l'école, il y a un prof qui fonde un club de littéraire où, justement, il lise ces livres-là avec des étudiants pour garder cet héritage-là vivant. Puis, bien entendu, ça part en couille.
C'est très inspiré de Fahrenheit 451, on dirait.
Oh, oui.
Moi qui connais pas Detention, là.
Ben, c'est une vraie période historique dans l'histoire de Taïwan, en fait, qui s'est étendue.
C'est ce qui est expliqué,
j'ai pas les dates exactes, là.
Ça se passe en 1962.
Ça se passe en 62, mais la période en tant que telle, qu'on dit la période blanche, en fait.
C'est l'après-guerre.
Après la guerre, ça s'est étendu pendant plusieurs décennies.
Ça a été long, oui.
Puis, en fait, c'est exactement quand on compare la Pan's Labyrinth, c'est que c'est exactement ce traitement un peu pas enfantin en termes
fantaisiste.
De traitement, mais fantaisiste, mais aussi du point de vue d'un enfant ou d'un adolescent sur le fascisme, la violence, puis comment, en fait, est-ce que ces personnages-là, en fait, se créent un univers de fantaisie c'est très lugubre pour, en fait, écoper puis pour justement dealer avec cette violence-là, tu sais, fait qu'il y a ce jeu-là entre, tu sais, la réalité puis la fantaisie du film. En tant que tel, il y a cette ambiguïté-là à savoir est-ce que c'est un monde projeté, une projection, un imaginaire, ou est-ce qu'on est vraiment dans un univers de démons, de fantômes, de ci, de ça, ou est-ce que les démons, les fantômes, effectivement, c'est pas le régime qui est en place. En fait.
Oui, c'est ça. Est-ce que les monstres sont imaginaires ou humains, finalement? Mm.
Ouais. Est-ce que vous avez joué aux jeux vidéo, par hasard? Ou,
non.
Non.
Je vais essayer de jouer avant le film.
On connaît juste de réputation.
Okay. C'est un jeu indépendant, je pense.
Oui, c'est ça. C'est un jeu indépendant qui a eu énormément de succès.
Ah oui, il a pété le box-office à Taïwan.
Okay. Mais Olivier semble l'avoir bien aimé, donc cool. Je vais l'essayer.
C'est excellent. Puis c'est justement, comme Ariel expliquait, c'est l'horreur de la vraie vie crée l'horreur fantaisiste.
Okay.
Un peu, c'est ça, comme dans Pan's Labyrinth. Puis. Là où ça rejoint Silent Hill, c'est que t'as vraiment une créature quasi inarrêtable qui est absolument monstrueuse. Puis, tu sais, t'as des esprits. Puis, l'école se transforme comme ça devient tout délabré. Puis, la direction artistique est vraiment efficace. Les éclairages, tout ça pour. Ça fout les jetons à plusieurs moments. Puis, tu sais, t'as l'aspect aussi, tu sais, quand ils ramassent quelqu'un, ils mettent un sac sur la tête, puis tu sais qu'ils s'en vont se faire tirer dans la face. Je suis désolé, mais c'était ça. Puis, fait que t'as toute cette imagerie-là qui se transmet dans le monde fantaisiste, lugubre. Puis, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça génial. Puis, moi, je pense que c'est un des meilleurs, sinon le meilleur, la meilleure adaptation de jeu vidéo que j'ai vue. Puis je sais que ça m'est déjà arrivé de dire ça, puis que ça n'a pas fait l'unanimité, mais celui-là a été choisi à Rotterdam pour vous donner une idée, qui est un des plus gros festivals au monde, un des plus prestigieux. Il a gagné le prix spécial du jury à Fantas Porto. Il a gagné une tonne de prix au Golden Horse, qui sont un peu les Oscars de Taïwan. C'est vraiment une valeur sûre. Puis l'actrice principale, Gingle Wang, si je ne me trompe pas, est vraiment fantastique.
Cool. Ah, ça, j'ai hâte.
Il y a vraiment de l'émotion se mêle à l'horreur. Puis, tu sais, tu as un aspect coming of age aussi. C'est un film qui est extrêmement riche.
OK.
Ouais. Moi, j'en aurais un film qui est dans votre catégorie, je pense, puis qui a piqué ma curiosité. Legally Declared Dead de Yuen Kim Wai. Est-ce que vous êtes en mesure de me présenter ça?
Oui, c'est le fun ce film-là, en fait. C'est un thriller hongkongais, en fait, qui nous a plu, je dirais, parce qu'on retrouve Anthony Wong qui fait qui fait ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire jouer les... Je ne veux pas dire psychopathe, je ne veux pas vendre de punch ni rien, mais il joue le Anthony Wong qu'on connaît, qu'on aime de films comme The Untold Story, Ebola Syndrome, des trucs comme ça. Donc, il y a un peu de cet esprit-là du cinéma hongkongais de catégorie 3 qui se retrouve dans ce film-là de par sa présence. Alors, on le voit là.
C'est lui, ça, c'est ça.
Super menaçant, super dégoulinant, vraiment savoureux en termes de performance. Je l'aime beaucoup. Je pense que les fans de cinéma hongkongais aussi, on partage cette affection-là. Je sais que King Wei aussi, sur notre équipe,
ouais.
Ça lui a beaucoup plu okay. pour cette raison-là. Mais au-delà de ça, c'est ça. C'est un thriller d'horreur assez croustillant, assez le fun. Est-ce que ça réinvente la roue? Non. Mais,
ça, c'est plus, on est plus dans le bon goodies. Là. C'est un c'est film ça, qui n'invente rien, mais qui nous donne ce qu'on a envie de voir quand on regarde ce type de film-là.
C'est ça, mais il est vraiment le fun. Puis je pense que les gens vont l'apprécier.
Cool. Avant qu'il soit trop tard et qu'on doive rusher ça, je sais qu'Éric, tu dois partir bientôt.
Oui.
Fait que reste avec nous pour les minutes que tu peux encore. Mais je tenais à te remercier de ta présence aujourd'hui puis merci d'être joint à nous.
Merci aux deux. Bonne journée.
Merci, Éric.
Merci de l'invitation. Content de vous avoir revu.
Ah oui.
Moi, les boys, si vous êtes partants, je vous soutiendrai peut-être encore 2-3 films, si ça vous tente.
Ah, absolument.
All right. Il y a un volet que j'aime beaucoup, Fantasia, chaque année, puis c'est les documentaires. Vous réussissez... Moi, je suis très fan de documentaires, puis vous réussissez toujours, justement, à nous sortir des films qui sortent de l'ordinaire, des fois très geek, des fois très pointus. Y en a-t-il un cette année que vous pourriez nous suggérer, mettons? Y en a-t-il un qui mériterait notre regard?
Moi, mon préféré, c'est « Feels Good Man ». Ouais. Le film sur Pepe the Frog, qui est un personnage, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un personnage d'un BDiste qui s'appelle Matt Fury, qui à l'origine, en fait, était une grenouille vraiment inoffensive, un genre de personnage de slacker, stoner, beatnik, c'est pas beatnik, là, mais genre peacenik. Puis son tagline, son truc, sa scène culte, c'est à un moment donné, il pisse, puis là, il s'enlève les pantalons, mais tu sais, jusqu'en bas. Puis tu sais, il pisse, puis il est juste comme, ah, feels good, man. Puis là, tous ses amis rient de lui parce qu'il pisse avec ses pantalons à terre. C'est ce genre d'affaire-là, là, c'est niaiseux, c'est le fun. Mais il y a quelque chose qui est arrivé au courant des années 2000, en fait, où ce personnage-là, c'est vu complètement récupéré, en fait, en premier lieu par la culture des mimes, sur 4chan, par exemple, puis il est devenu un mime assez rapidement. Mais ce film-là va, en fait, tracer la trajectoire de comment ça l'a complètement dégénéré, puis comment, en fait, Pepe the Frog, au courant des années 2010 jusqu'en 2016, l'élection de Donald Trump, est devenu en fait un symbole de l'extrême droite aux États-Unis, du alt-right, jusqu'à devenir un genre de truc, le symbole d'une sous-culture entière. Tu sais, puis le film est intéressant parce qu'en ce moment, il parle de cet aspect politique, réel, politique-là, mais aussi tu sais, de comment la culture des mimes, comment le alt-right sur Internet, comment une culture de l'irrévérence de l'Internet, a pu influencer la politique américaine. Par moment, on parle même d'un truc, t'sais, un concept qui s'appelle le meme magic. Il y a des gens qui croient que dès que tu crées des memes assez puissants, que tu les dissémines aux bons endroits sur Internet, ça va influencer les gens, la pensée, puis par conséquent, les événements historiques comme les élections. Fait que il y a tout un truc avec ce personnage-là. Mais évidemment, le cœur du film, c'est Matt Fury qui voit tout ça se dérouler puis qui se dit « Ok, ça n'a pas de bon sens, il faut que je fasse de quoi. »
Oui, hors de son contrôle, c'est ça.
Ben oui, il faut que je fasse de quoi pour récupérer mon personnage qui est supposé être à peu près, qui représente à peu près la nonchalance incarnée. Puis là, tout d'un coup, j'écoute des taux de nouvelles sur le... le t-shirt d'un tueur de masse aux États-Unis, tu sais. Fait qu'il y a un truc vraiment fascinant sur, ben c'est ça, sur la politique américaine, sur notre, puis aussi sur notre relation à la réalité, toute la fake news, la culture très, très tribale là, qui est en train de se développer, mais on le voit en ce moment, tu sais, des conspirations, des théories
très polarisées.
Puis comment, ben c'est ça, une grenouille tout à fait innocente a pu être récupérée au centre de tout ça.
All right.
Mais c'en est un que c'est sûr que je vais vouloir regarder parce que je veux voir comment une grenouille stoneuse qui pisse avec les culottes aux cheveux a réussi à devenir un symbole de l'alt-right.
C'est clair. Mais là, ben, messieurs, question de ne pas vous retenir éternellement, surtout pour Ariel, là, il est passé minuit, pauvre petit. Passé une heure, là, probablement. J'aimerais peut-être, on pourrait clore avec un ou deux films chacun que vous aimeriez nous suggérer, peut-être. Qu'est-ce que vous tente?
Oui, ben moi, on n'a pas encore parlé de films coréens. Tu connais mon amour du cinéma coréen. Il y a le film Me and Me que j'ai trouvé extrêmement intéressant. C'est un film vraiment particulier. C'est un premier film. C'est l'histoire d'un couple qui a l'air idéal, qui vit dans un petit village reculé dans la campagne coréenne. Mais la femme, le mari est un professeur. Sa femme, c'est une femme au foyer. Mais la particularité, c'est qu'à chaque soir, elle change totalement de personnalité. Et elle a une personnalité différente à chaque soir. Fait que c'est comme un sac à surprises. Puis quand un des villageois décide d'aller saigner un peu pour voir qu'est-ce qui se passe chez eux, puis qu'il tombe sur elle, qui est en mode championne de judo, qui sac la volée, là, les villageois décident qu'elle est trop imprévisible puis est trop dangereuse. Fait que le soir... ils vont l'enfermer au grenier, puis ils vont mettre une porte grillagée pour. Puis le gars, le matin, va venir ouvrir la porte pour qu'elle puisse sortir. Puis il passe un accident, puis les deux décèdent dans un incendie. Puis après, il y a un enquêteur qui arrive là-dedans, qui est joué par Cho Jing-woong, qu'on a vu dans Hard Day, un des gros acteurs coréens. Puis. Lui, il vient enquêter sur l'affaire, puis il se rend compte qu'il y a de quoi qui marche pas. Les villageois disent pas tout. Puis, ça devient, à un moment donné, assez ésotérique. Il sait plus s'il est lui-même. Puis, il change comme... au début, il devient le professeur. Puis, en tout cas, je veux pas trop en dire. Puis,
C'est assez... c'est comme un body swap movie.
Ouais.
Okay.
Mais qui te prend par surprise, en fait, en termes de la façon que cette prémisse-là, d'habitude, c'est assez clair. Mm-hmm. Une jeune fille et sa grand-mère. Mais là, ça prend cette formule-là, puis ça en fait quelque chose d'un peu plus existentiel ou.
C'est très philosophique.
Où l'enquêteur, au final. En débarquant dans le village, il se retrouve en fait à plus se reconnaître lui-même en fait. Donc c'est vraiment intéressant, c'est vraiment le fun en termes de comment ça joue sur les codes de ce genre-là, du thriller aussi, du thriller d'enquête, ouais. C'est super cool.
Puis, c'est ça, c'est un premier film, comme je disais, puis premier long-métrage pour le réalisateur, puis c'est super bien réalisé, c'est vraiment fou à quel point le film est maîtrisé, puis tu sais, comme premier film, tu pars avec une prémisse de même, c'est comme tu t'es mis la barre haute, mon champion, puis il réussit totalement, puis en plus, c'est que c'est un film qui respecte l'intelligence du spectateur, il ne prend pas par la main pour te dire « ben c'est ça qui arrive ». Tu vas sortir du film, puis tu vas y penser.
Tu vas analyser ce que tu viens de voir, puis tu vas le comprendre en chemin.
Tu n'as pas de réponse précise. Mais tu sais, ça ne vend aucun punch. Là, mais tu sais, ça te laisse le soin d'interpréter toi-même, puis de te faire ta propre idée de ce qui s'est passé, puis c'est quoi la réalité versus le rêve.
OK, c'est intéressant, ça.
Non, c'est vraiment, vraiment bien.
C'est cool. Ben, regarde, tu vois, tu voulais pousser le cinéma coréen un peu. T'en as-tu un autre coréen à nous suggérer?
Oui. Moi, il y a un film que j'ai adoré, mais qui est vraiment pas un film extrêmement jojo. Comme dans le cinéma coréen, il y en a qui te rentrent de... Ça te met la main d'un trip, puis ça twist, là.
J'aime ça, moi, ça. Go. Je suis à l'écoute.
Bring Me Home. Bring Me Home, ça va aller te chercher le « Ah! » C'est l'histoire... j'ai trouvé ça très original parce que c'est un film de disparition d'enfants, puis la mère cherche son fils qui est disparu, mais le film commence, tu sais, t'as pas la scène d'enlèvement. Le film commence, t'es disparu depuis 6 ans. Oh, tu vois le couple qui cherche son petit gars partout. Puis, en parallèle, t'as dans un village de pêcheurs, t'as une gang de redneck très louches qui ont justement un enfant qui traite en esclave, puis il sac des tapes sa gueule devant tout le monde. Puis, à un moment donné, ben, il y a un policier qui se rend compte que c'est peut-être lui, le petit gars, ses avis de recherche. Fait qu'il loge un appel anonyme, puis la mère sera là, puis ce qu'elle découvre, c'est bien pire que tout ce qu'elle pouvait imaginer. Puis c'est avec l'actrice, c'est la première fois en 14 ans qu'elle joue dans un film, c'est l'actrice de Lady Vengeance.
Ah oui, OK.
Donc c'est un peu sur les mêmes thèmes, là. C'est rough. Puis c'est un film qui est cruel, mais c'est extrêmement bien raconté. C'est vraiment prenant. Puis ça aussi, c'est un... Moi, c'est les réalisateurs coréens qui font leur premier film, je vais toujours être étonné. Tu sais, on dirait que ce film-là, tu sais, c'est quelqu'un, un vétéran qui a fait 10 films. Il a été présenté à Toronto, à Rotterdam, à Busan, tu sais, puis tu lis les critiques, puis ça n'est que des éloges. Fait que si vous voulez un film qui twiste le système digestif dans le bon sens, c'est vraiment un très bon thriller, drame, aïe aïe.
Ça me parle, ça, parce que, tu sais,
veux pas,
c'est sûr que tous les goûts se valent, là, mais moi, quand je vais au cinéma, je veux un manège. Je veux me faire brasser à cabane, je veux me sortir de ma zone de confort. C'est pas, t'as pas ça quand tu regardes une petite comédie légère, mais ça, là, ça me parle.
Tu vas sortir.
OK. Merci de la suggestion. C'était dans ma liste déjà. C'est un film qui avait attiré mon attention, justement, pour sa... la dureté de l'histoire, là, mais tu viens de bien me le vendre. Là, tu piques vraiment ma curiosité.
Puis l'actrice est fantastique. Tu sais, moi, j'en revenais pas qu'après Lady Vengeance, elle avait disparu. Elle a probablement fondé une famille ou je ne sais pas quoi. Là. J'interprète. Mais ça fait vraiment du bien de la voir. C'est une actrice qui est fabuleuse. Puis, tu sais, elle joue pas, tu sais, souvent dans des drames comme ça, ça va être un peu hystérique. Puis là, c'est vraiment comme si elle était dépassée par les événements. Mais c'est tout en subtilité. Puis tu vois son personnage évoluer vers quelque chose que je vous dirais pas. Puis c'est vraiment bien interprété. Moi, c'est une des grandes performances d'actrice que j'ai vues cette année.
All right. Hey, merci, Nico. Ariel, tu peux-tu nous en présenter un ou deux derniers?
Ouais. C'est pas un film d'horreur, mais je voulais le mentionner parce que bon, les fans de Fantasia, les fans de cinéma de genre vont se souvenir de One Cut of the Dead il y a quelques années.
Oui.
Shinichiro Ueda, il revient avec son deuxième film, Special Actors. Puis je voulais le mentionner, en fait, parce que peut-être que le lien n'était pas évident.
J'avais pas fait, moi.
Special Actors, qui est en fait une comédie absolument géniale.
C'est tellement bon.
Qui reste, en fait, dans les mêmes codes, en fait. Donc, One Cut of the Dead, évidemment, c'est un truc très méta, où on te montre un making-of. En fait, j'oublie l'ordre maintenant, mais...
tu vois le film, puis après, tu vois le making-of.
C'est ça, c'est ça. On te montre le plan-séquence, puis plein de fautes de raccord, de ci, de ça. Puis ensuite, on te montre le making-of qui t'explique, en fait, comment on est arrivé là. Avec Special Actors, il reste dans le même style. On suit un jeune acteur amateur qui, lui, en fait, a un problème. Il est trop nerveux. Il s'évanouit à toutes les auditions. Donc, il n'est pas pris au sérieux. Mais un jour, son frère vient le voir et lui dit « Écoute, j'ai peut-être une job pour toi. C'est dans une firme de talent, un talent agency qui s'appelle Special Actors. Puis nous, en fait, ce qu'on fait, c'est du jeu, dans des situations... de la vie de tous les jours. Donc, si tu as besoin d'engager quelqu'un pour être assis à ton mariage parce que ton côté de l'allée, il n'y a personne, ou si tu as besoin d'un figurant pour ton enterrement, des trucs comme ça.
Oui, mais
si tu veux impressionner une fille quand il y a quelqu'un qui vient te mugger, puis toi, tu le fasses dans le cul.
Mais les acteurs de funérailles, c'est quelque chose qui existe pour vrai, là.
Oui, c'est
un... Oh, oui, mais les acteurs de mariage...
Ça existe réellement, là.
C'est un vrai phénomène, en fait. Phénomène.
Excuse-moi, je voulais pas te couper, mais non, je trouvais ça intéressant de mentionner. Oh,
oui. c'est, ça vaut la peine d'avancer parce que oui, effectivement, c'est un vrai phénomène au Japon. Puis en fait, c'est lui qui s'est engagé dans cette firme-là. Mais rapidement, il y a quelqu'un, une cliente, tu sais, qui vient et qui dit « Écoutez, ma soeur... est prisonnière d'une secte, puis j'ai besoin que vous alliez la sortir de là. » Tu sais. Okay. C'est un gros contrat. Tu sais. Fait que là, le branle-bas de combat s'embarque, puis il décide de bâtir. En fait, tu sais, là, c'est plus un acteur, tu sais. C'est
toute l'équipe.
toute la troupe qui bâtit un genre de gros scénario, un gros subterfuge pour infiltrer la secte. Puis aller sortir leur cible de la secte. Mais évidemment, c'est tous des acteurs, c'est tous des mauvais acteurs. T'sais. Fait que comment est-ce que tu joues à l'espion? Comment est-ce que tu joues? Fait que la comédie, évidemment, vient du fait que c'est des gens dont leur talent se situe à peu près à je suis assis à des funérailles puis je dis rien. Là, tout d'un coup, ils doivent faire comme s'ils font partie de cette secte-là complètement loufoque. En fait, ils vénèrent des bidules puis genre de. Un triangle en forme de onigiri, là, de rice ball japonais, tu sais, puis fait que c'est, comme tu peux t'imaginer, là, c'est puissant, c'est complètement, tu sais, c'est cringe aussi, tu écoutes ça, puis t'es comme, oh my god, tu sais, vont-tu se faire pogner, tu sais, ils sont tous mauvais, mais étant un film de Shinichiro Ueda, il y a aussi là, des couches, tu sais, il y a des couches méta, à un moment donné, tu perds le fil de comme, ok, on est-tu dans leur plan? On est-tu dans leur scénario? Ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui vient de partir en couille? Ou est-ce que c'est un dérapage contrôlé? Mais t'es comme, mais non, ils sont pas aussi smart que ça. Fait qu'à un moment donné, tu perds le fil de la réalité complètement, puis le plaisir du film est là-dedans. Là, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur.
Okay.
Ça, c'est une projection en simultané. Donc, on l'a mis très tôt dans le festival. Fait qu'imaginez-vous que c'est un... Ça a été un 9h dans le hall.
Oh oui. Puis la qualité d'écriture de ce film-là est hallucinante. Si vous avez vu One Cut of the Dead, chaque détail dans le film que tu arrives, le zombie vomit, puis tu fais comme ah, le zombie qui vomit. Mais là, après ça, quand tu vois le making-of, chaque détail qui t'a fait tilter, tu vois, puis il s'est expliqué de façon vraiment hilarante. Tu as la même qualité d'écriture dans Special Actors. C'est vraiment, moi aussi, c'est un de mes films préférés cette année.
All right, cool. Ben, je l'avais pas remarqué, je n'avais pas attiré mon attention, celle-là, mais je vais l'ajouter à ma liste, ça me parle, ça va être le fun.
C'est le fun.
All right. Ben, Ariel, peux-tu nous en présenter un dernier?
Yes. Dans Caméra Lucida, il y a un film américain qui s'appelle San Zaru, qui était de la sélection de Slam Dance cette année. C'est un film d'horreur, en apparence assez modeste, je dirais, mais qui est super bien foutu, en fait. C'est l'histoire d'une infirmière à domicile philippine, en fait, qui débarque dans la maison des Reagan au Texas, donc une famille notamment blanche, avec un nom de même probablement, un peu de droite aussi. Puis la matriarche de la famille est mourante. Ben pas mourante, mais sa démence commence à vraiment la ronger. Puis elle, son contrat, c'est de prendre soin de cette madame-là. Puis évidemment, là, tranquillement, les choses, ils se mettent à dégénérer un peu. Il y a une ambiance super inquiétante qui s'installe. Puis elle commence à entendre des choses, en fait, qui viennent de l'intercom, par exemple. Il y a clairement quelque chose qui se trame dans la maison qu'elle va découvrir en parallèle à la santé défaillante de cette madame-là de qui elle s'occupe. La qualité de ce film-là est vraiment dans la mise en scène, dans l'atmosphère. C'est un premier film, mais c'est un réalisateur que je comparerais... il y a toute une vague en ce moment de cinéma d'horreur un peu plus, disons, délibéré, un peu plus lent, un peu plus artsy, tu sais, mais ça fait penser, par exemple, à Ari Aster, tu sais, Hereditary, Midsommar et compagnie, ouais. En termes de tu sais, ce mélange assez adroit entre, tu sais, atmosphérique, mais aussi un peu rétro, des mouvements de caméra, tu sais, très, très calculés, très délibérés, une grosse atmosphère... T'sais, la musique est vraiment pesante. Il y a un truc aussi où vraiment la maison prend vie. Puis il y a des trucs, il y a des effets visuels, il y a des effets de... T'sais, c'est un film qui se joue beaucoup sur le visuel. T'sais, il y a des trucs assez mémorables, là, je dirais, assez perturbants, assez dérangeants, excusez, qui font en sorte que ce film-là m'est resté en tête longtemps. Puis je pense que ce réalisateur-là va faire des belles choses, en fait, après ça. Je ne serais pas surpris, là, t'sais, que son prochain, ce soit un film de A24 ou peu importe, là, un truc comme ça, il tient quoi, là.
Cool, c'était dans ma liste, en tout cas, ça. Moi, ça, tu dis que la prémisse, ça n'était pas à tout casser nécessairement, mais au contraire, justement, bien souvent, quand je vois qu'un film, la prémisse est de base, puis qu'on l'a vu mille fois, souvent, c'est là que ça pique ma curiosité, parce que je me dis, OK, s'il a décidé de partir avec ça, c'est probablement qu'il s'en va ailleurs avec.
Oui, non, c'est ça. Il y a un truc assez classique, tu sais, dans la prémisse, mais en termes de visuel, d'atmosphère, il y a un truc assez prenant. Puis aussi, je trouve que la tension, tu sais, la tension entre l'infirmière à domicile, tu sais, puis cette idée-là de tu sais, aussi d'une famille blanche, tu sais, qui a quand même de la richesse, tu sais, générationnelle. Il y a une dynamique de classe qui s'installe, tu sais, qui est c'est pas ça le propos du film, mais il y a un truc qui se joue à ce niveau-là, tu sais, une minorité dans une ville rurale du Texas, tu sais, l'atmosphère d'inquiétude que le film vient créer vient pas juste de l'horreur, tu sais, il y a aussi cet aspect d'un personnage qui se retrouve dans un environnement où forcément est à un désavantage, n'est pas tout à fait confortable, puis tu sais, c'est quoi donc le mystère, la noirceur que cette famille-là cache, tu sais, c'est, puis pourquoi ce serait elle qui devrait le découvrir, tu sais, c'est comme il y a tout ce truc-là où est mise dans une position qui est un peu terrible, puis non seulement elle doit torcher, tu sais, la madame, mais en plus de ça, c'est comme, même, t'as toutes tes affaires, tu sais, tout ton bagage familial, tu sais, qui vient avec. Fait qu'il y a cette lourdeur-là que je trouve vraiment intéressante dans le film, en fait.
Génial! Ben, merci beaucoup.
Je peux te faire un petit en vrac?
Ah, ben oui, vas-y. Vas-y, garde-toi.
Il y a aussi, moi, un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, ça s'appelle Le Kakegurui. C'est l'adaptation d'un manga qui a été aussi... Ben, le manga a été adapté en série animée Netflix, qui est très, très, très populaire. Puis, c'est un film sur une école où la hiérarchie est basée sur les talents de gambler. Donc, si tu n'es pas capable de... Si à un moment donné, tu fais un pari et que tu ne peux pas honorer la somme que tu dois, ben là, tu deviens comme un animal domestique qui se promène à quatre pattes en laisse.
OK.
Puis, c'est bien plus smart que ça en a de l'air. C'est toute une métaphore sur la société moderne, sur l'appât du gain, la corruption. T'as une élection dans le film qui est très... la démocratie, entre gros guillemets.
Ouais.
Puis les personnages sont vraiment colorés. L'acting est fait, tu sais, c'est overacté, là, je vous avertis tout de suite, mais c'est fait en fonction justement que ça a l'air de manga. Puis c'est ouais. vraiment un film qui est beaucoup plus intelligent que qu'il en a de l'air. Donc, si vous voulez un film qui est. Puis en même temps, les compétitions de gambling sont excitantes, là, c'est digne. Ils font un roche-papier-ciseau, mais d'une façon avec des cartes, puis ils ont juste une carte. Puis là, pour avoir une autre carte, il faut qu'ils gagnent. Puis tu as toute la stratégie, puis de t'sais, essayer d'aller deviner. Puis en tout cas, c'est comme un drame sportif. Là. C'est à un moment donné, à la fin, t'es comme « Ah, vas-tu gagner? » Oui, ça, c'est vraiment bon. Puis aussi, on parlait de films de party. Monster Seafood Wars, du réalisateur de ouais. Calamari Wrestler. Puis, si vous voulez regarder un film en prenant une petite bière avec des chums, là, des gros fruits de mer géants qui pètent Tokyo, qui se battent entre eux autres avec... des coups de tentacules mous, puis en tout cas, c'est vraiment drôle. Puis c'est fait comme un faux documentaire.
OK.
Puis c'est ça.
On les voit bien, là.
C'est vraiment le fun. Vous pouvez voir le kitsch sur cette image. Fait que c'est vraiment le fun si jamais ça vous tente de mettre vos neurones à off, puis de rire bêtement devant un film un peu gras. C'est vraiment le fun.
All right, cool. Ah ouais, mais je l'avais mis dans ma liste, justement, d'un coup que ce soir-là, j'allais filer gras, puis...
Ah, c'est niochon, mais tu sais, c'est...
Pas mon aime, ça, de temps en temps.
Ben oui, mais tu sais, Calamari Wrestler, c'était pas... ça gagnait pas un Pulitzer, là.
Ben non, c'est ça. C'est pas des films mais qui sont destinés à ça du tout, là.
Non, non, c'est ça. C'est un film pour se faire du fun, puis rire en chum, fait que... si vous voulez faire un party, là, ça puis le pervers masqué, là, HK Forbidden Superhero, là, c'est parfait.
All right. Cool. Ben, merci beaucoup, messieurs, de nous avoir partagé un peu de votre temps.
Merci à toi.
Durant ce confinement, durant ton camping, Nico, en direct ben oui. à Hong Kong avec Ariel. C'est vraiment,
avec
c'est vraiment très nice.
Tante.
Oh, allô! Oh, cute. Ben, all right, ben, je vous libère, messieurs, mais...
Merci beaucoup, Simon, pour l'invitation. C'est bien apprécié.
Ouais. Ah, ben, c'est toujours un plaisir. Ben oui, c'est toujours un plaisir de jaser avec vous. Là, c'est sûr qu'on va peut-être pas se croiser cette année, mais j'espère que j'aurai la chance de vous placoter peut-être un peu pendant le festival, on sait jamais.
Ouais. On se prend un zoom. Hésite pas s'il y a quoi que ce soit, on est là.
Ouais, super. Ouais. Merci encore, les boys. Merci à tous les auditeurs aussi. Je vais être de retour aussi très, très, très prochainement. Il n'y a pas de date encore, mais il va y avoir d'autres petites entrevues comme ça avec d'autres programmateurs. Je vous garde des surprises. Comme ça, on va essayer de justement d'élargir la promotion qu'on fait autour du festival puis essayer d'aller voir plusieurs types de films. Merci beaucoup, messieurs, encore une fois. Puis je souhaite un bon festival à tous.
Merci beaucoup, puis tu me donneras des nouvelles de tes préférences.
Certain. J'ai
toujours apprécié d'avoir du feedback. D'habitude, on l'a live, ouais, avec les réactions ça, ouais. de la foule. Ça, c'est une affaire qui va manquer bien gros. C'est très galvanisant d'avoir cette énergie-là d'un théâtre hall bien plein. Mais qu'est-ce que tu veux?
Ouais, bon, parfait. Dans cette optique-là, ça va me faire plaisir.
Yes.
All ouais. right. Bon, ben Nico, bon après-midi. Ariel, bonne nuit.
Merci.
À plus, Simon. Ciao.
Bye, guys.
Bye.
Merci encore.